L'actualité scientifique de la semaine avec notre club des têtes au carré au menu de nos discussions cet après-midi. La vision humaine maltraitée par la 3D, chez les jeunes en particulier. Des lézards de Floride, exemple d'une évolution express. Faut-il aller voir Interstellar au cinéma? On vous offrira également un petit bouillon de particules. Et puis la grande scientifique française Marie Curie en librairie et en prime time sur France 2. Pour développer tous ces sujets, je suis avec Marie-Noëlle Imbert, Nathalie Besson qui sera avec nous par téléphone, Jean-François Clairvoy, Olivier Merkel et Hervé Le Guyader. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue. La 3D déconseillée aux enfants de moins de 6 ans, c'est l'agence de sécurité sanitaire qui s'inquiète des effets potentiels donc de la 3D sur le développement de la vision des plus jeunes. Olivier Merkel, vous êtes chef de l'unité d'évaluation des risques liés aux agents physiques à l'ANSES et vous allez nous dire pourquoi vous émettez ces recommandations. La théorie de l'évolution, la preuve en temps réel grâce à des lézards de Floride. Hervé Le Guyader, vous êtes professeur de biologie évolutive à l'université Pierre et Marie Curie justement et vous allez commenter pour nous une publication qui est sortie cette semaine et qui montre une modification très rapide de la morphologie de lézard après l'arrivée d'une espèce concurrente. La rapidité du phénomène est très intéressante. Allons-nous vous conseiller ou non d'aller voir le film Interstellar ce week-end au cinéma? Jean-François Clairvoy, vous êtes astronaute à l'Agence spatiale européenne et vous serez notre critique cinéma de luxe aujourd'hui. Vous avez vu Interstellar de Christopher Nolan et vous nous direz si cela vaut donc le coup de dépenser 10 euros pour ce blockbuster scientifique. Et puis nous évoquerons un autre film avec la physicienne Nathalie Besson, puisque Particle Fever, la fièvre des particules, est également sur les écrans. Et puis enfin, on s'intéressera donc au destin d'une femme scientifique majeure avec vous, Marie-Noëlle Imbert. Vous êtes journaliste, réalisatrice et scénariste de documentaires. Vous publiez Marie Curie, portrait d'une femme engagée. C'est aux éditions Actes Sud. Et puis vous avez également travaillé sur le docu-fiction Marie Curie, une femme sur le front, qui sera diffusé en prime time, donc mardi prochain à 20h30 sur France 2. Voilà donc pour les sujets dont nous allons parler dans notre club cet après-midi. Vous nous rejoignez avec tous vos messages en direct, franceinter.fr et puis également sur les réseaux avec le mot-clé « L'attaque ». Violaine Ballet réalise l'émission qui a été préparée par Sylvain Guilbeault.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Prétexte d'avoir oublié ses gants, le lapin la laissa chez lui et selon ses plans. Elle devait tomber sur un cadeau sans égal, au lieu de ça, Alice trébuchait ses talons. Elle passa au milieu de la surprise dans le salon, son humeur prit la taille d'un melon. Gêné, le museau collé derrière la vitre, se prépare le départ de météorite d'un lapin qui se sent comme l'âne batté. Après avoir offert ce cadeau raté, c'est la porte-bonheur jamais vue de la plupart. Il fallait frapper pour entrer nulle part. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. Avec la porte on peut pas se blottir, mais Alice pouvait aller venir s'en sortir. Se fâcher, la fermer à double tour, l'appeler, pas souci si se perdent les clés. Contre l'improviste, y a une sonnette, besoin de liberté, elle peut rester ouverte. Mais comme le bonheur était dans ses cordes, Alice n'a vu que midi à sa porte. Après avoir pleuré un autre fleuve, la voilà repartie dans la forêt seule. Ce chapeau sur pattes pouvait courir, fallait pas réfléchir avant d'offrir. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout. On fait un rien de tout et de tout, quelque chose d'inutile. Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout au tout.
Voilà la porte du bonheur pour démarrer ensemble ce club avec Ibrahim Malouf et Oxmo Puccino.
Le club carré sur France Inter.
Et dans notre club des têtes au carré, on parle cet après-midi des effets de la 3D sur la vision des enfants. En particulier, on s'intéresse à un cas d'évolution très rapide chez des lézards de Floride. On vous dira si le film Interstellar vaut le déplacement. On va vous proposer également de plonger dans une soupe de particules et puis on découvrira le rôle important, majeur de Marie Curie pendant la guerre 14-18. Mes invités pour en parler, Marie-Noëlle Imbert, Nathalie Besson, Jean-François Clairvoy, Olivier Merkel et Hervé Le Guyader. Vos messages et vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque sur les réseau. Olivier Merkel, donc vous êtes chef de l'unité d'évaluation des risques liés aux agents physiques de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire. L'ANSES donc qui vient de publier cette semaine des travaux après avoir évalué les risques sanitaires potentiels des technologies 3D sur la vision. Pourquoi l'agence est-elle d'abord auto-saisie, c'est le terme employé de cette question?
Oui, absolument. On s'est auto-saisie en 2012 hein, sur cette question-là. En fait, peut-être pour revenir à la genèse de cette expertise, simplement, il y a à l'origine une petite mention dans la notice d'emploi d'une console de jeu, la Nintendo 3DS, oui. Qui a alerté une...
Vous avez mis la puce à l'oreille.
Oui, alors pas nous exactement, puisque c'était une organisation environnementale, Robin des Bois en l'occurrence, et qui s'est dit, mais pourquoi Nintendo finalement déconseille l'usage de la 3D aux enfants de moins de 6 ans et donc nous a sollicité, Robin des Bois nous a sollicité pour nous demander, voilà, pourquoi est-ce que Nintendo... Elle recommande ça.
Est-ce que ça laisse entendre que Nintendo fait travailler des scientifiques et qu'ils avaient déjà des réponses très précises à cette question?
Alors en fait, à l'époque, il y avait quelques études, effectivement, un peu disparates sur le sujet, dont certaines voilà, avaient pu alerter certains constructeurs sur le sujet. Alors du coup, l'agence n'a pas trouvé grand-chose hein, à l'époque en matière d'effets, de risques pour la santé liés à la 3D. Et donc on a décidé, voilà, en 2012, de vraiment essayer de faire une expertise globale des effets des différentes technologies audiovisuelles en 3D, le cinéma. On connaît aujourd'hui la télévision, évidemment, la télévision en 3D, dont certaines permettent même de transformer du contenu 2D en 3D. Et puis, alors aujourd'hui, le développement des tablettes tactiles et même des téléphones mobiles, hein, aujourd'hui, qui permettent d'avoir un affichage en 3D.
Et alors, comment vous procédez pour étudier une telle technologie, précisément? Ça ne doit pas être très facile à faire, ça.
Alors, bon... De la manière classique hein, dont procède l'agence pour tout ce qui concerne les risques sanitaires, l'agence a un champ extrêmement large. Hein, elle s'occupe de santé animale, de santé végétale, évidemment de santé humaine. Et donc dans ce domaine-là, on met en œuvre une expertise collective, c'est-à-dire qu'on recrute finalement des experts extérieurs à l'agence, les meilleurs spécialistes hein, indépendants sur le sujet. En l'occurrence, une petite dizaine d'experts, des ophtalmologistes évidemment, mais des spécialistes aussi des nouvelles technologies, de la cognition aussi. Et donc, on réunit ces personnes-là quasiment en conclave tous les mois.
Oh, carrément.
C'est extrêmement, extrêmement voilà, rigoureux. Et on rassemble en commun donc, toutes les publications scientifiques
voilà,
sur le
vous
sujet.
Vous compilez en fait
voilà,
hein, les études qui existent déjà.
On ne fait pas de recherche spécifique. Hein, l'agence voilà, ne mène pas elle-même de recherche, mais on compile l'ensemble des données.
Alors, comment ça fonctionne, un œil face à la 3D précisément? Qu'est-ce qui se passe
hein? Alors, effectivement, pour percevoir la profondeur, le relief, on a besoin de nos deux yeux, on a une impression de relief et de profondeur avec un œil, hein, la vision monoscopique, mais la vision binoculaire, la stéréoscopie est beaucoup plus performante pour apprécier les distances, le relief autour de nous, pour se mouvoir finalement à grande vitesse dans l'espace. Et alors ça, c'est possible donc grâce aux deux yeux qui, donc évidemment, sont pas placés au même endroit et qui perçoivent deux images légèrement décalées. Et ces deux images légèrement décalées, elles vont être fusionnées par le cerveau. Alors ça, c'est important parce que le système visuel, c'est pas juste les yeux. C'est vraiment les yeux, les nerfs optiques et puis cette partie du cerveau qui va fusionner ces deux images légèrement différentes et rendre du coup cette impression de relief de trois dimensions. Donc voilà un peu comment fonctionne la vision naturelle en 3D. Et alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la vision d'image en 3D artificielle, on a un principe qui est un petit peu différent. Alors dans la réalité, on fait le point, c'est-à-dire qu'on accommode avec le cristallin sur l'objet qu'on regarde. Si on regarde proche de nous, on accommode voilà, là, sur le micro que j'ai devant moi. Du coup, je louche un petit peu. Il y a vraiment les deux yeux qui se dirigent vers le micro. Et puis, on voit évidemment flou au fond et inversement. Alors qu'avec les technologies 3D, on projette une image sur un écran. Et donc, cette image, elle est fixe sur l'écran. Les yeux accommodent, font le point sur l'écran. Mais les yeux, eux, se dirigent vers les objets qui apparaissent virtuellement en avant et en arrière-plan. Et donc ça introduit une contrainte sur le système visuel.
Oui.
Et c'est cette contrainte, en fait, qui est responsable de tout un tas de symptômes qui sont bien aujourd'hui décrits dans la littérature scientifique.
Qu'on peut ressentir, d'ailleurs, quand on sort tout simplement d'une séance de cinéma en 3D.
Absolument.
Hein.
Absolument, c'est ça qui est...
Donc d'abord une fatigue visuelle.
Oui, tout à fait.
Mais pas seulement.
Pas seulement, donc la fatigue visuelle, mais aussi un mal de tête, ça s'est ressenti par beaucoup de gens qui sortent des séances de cinéma, effectivement en 3D, mal de tête, mal de dos, jusqu'à des troubles de l'équilibre, des formes de vertige qui peuvent être, dans certains cas, on pense notamment à des problèmes d'accident pour certaines professions qui utilisent des technologies en 3D.
Alors pourquoi des risques chez les enfants de moins de 6 ans en particulier ?
Alors, autre originalité du travail de l'agence, c'est d'avoir rassemblé tout un ensemble de connaissances qui étaient peut-être un petit peu disparates sur l'évolution du système visuel des enfants. Le système visuel des enfants, aujourd'hui, on est capable de dire qu'il est vraiment immature jusqu'à 6 ans.
C'est ça.
Et encore en développement jusqu'à 12-13 ans.
Voilà.
Et donc, contraindre le système visuel des enfants qui est immature, ça pourrait avoir un impact à long terme.
Ouais. Donc, recommandation auprès, évidemment, des parents, de faire très attention. Alors, qu'est-ce que vous recommandez précisément ?
Alors, très précisément, l'agence recommande que les enfants ne soient pas exposés aux technologies de vision en 3D jusqu'à 6 ans, afin de préserver la bonne qualité de leur vision pour plus tard, et jusqu'à 13 ans, un usage modéré. Ça veut dire être attentif, attentif aux symptômes. Si on a mal à la tête, on arrête. Et puis, je dirais d'une manière générale, pour l'ensemble de la population, être attentif aux symptômes et consulter si vraiment on a des sensations trop importantes, parce que ça peut être révélateur. La 3D pourrait être une sorte de diagnostic, finalement, de pathologie oculaire.
Ouais. Donc, attention, Jean-François Clairvoy.
Qu'en est-il des masques 3D qui permettent d'avoir le focus, l'accommodation de l'œil, plus rapproché si on les fait comme il faut. C'est-à-dire le masque qui représente, qui en face de chaque œil, une image qui lui correspond, sans avoir à focaliser sur un écran qui est à plusieurs mètres.
Alors oui, intéressant, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié. À voir si en fait la sensation de relief, malgré tout, ne cause pas une divergence finalement des yeux qui serait vraiment décalé par rapport à l'écran. Si effectivement on reste dans une zone très proche de l'écran, on a effectivement un inconfort visuel qui est très limité. C'est aussi une de nos recommandations, s'éloigner de l'écran pour diminuer l'impression de relief. Ça permet d'éviter la fatigue visuelle. Ouais.
On entraîne les astronautes aux sorties dans l'espace avec un système de réalité virtuelle. On porte un casque, on porte des gants spéciaux et l'astronaute qui met sa main devant ses yeux qu'il ne voit pas avec ses vrais yeux, l'ordinateur reconstitue la main là où elle est en réalité. C'est-à-dire qu'on voit, on reconstitue le relief avec les bonnes distances.
Il faut avoir une vision parfaite pour être candidat à l'espace.
C'est coûteux.
Ça fait partie quand même des critères. Donc, recommandation de l'ANSES, il y a eu beaucoup d'échos autour de votre étude précisément cette semaine. Et c'est utile évidemment pour les parents qui peut-être ignoraient l'incidence des technologies 3D sur la vision. Donc attention, jusqu'à 6 ans, essayez vraiment de l'éviter. Ensuite, soyez parcimonieux dans votre usage. Hervé Le Guyader, les lézards verts de Floride dont on va parler, est-ce qu'ils ont une bonne vision? On ne sait pas.
Je crois que oui, parce qu'ils montent dans les arbres. Et
ils repèrent de loin les envahisseurs, en tout cas.
Là, oui, aussi.
On va parler avec vous d'une illustration, on peut dire, de la théorie de l'évolution, quasiment en temps réel. C'est assez intéressant ce qui s'est passé, puisque c'est une étude qui vient de paraître dans Science et qui rapporte l'évolution rapide d'une espèce de lézard, donc ces lézards verts, dans des petits îlots au large de la Floride, suite à l'introduction précisément d'une autre espèce de lézard, donc on va dire les verts contre les marrons venant de Cuba.
Cuba.
C'est ça. Alors, est-ce que d'abord il est difficile de pouvoir observer la théorie de l'évolution dans ces conditions-là? Parce que là, on a un exemple formidable.
Oui, c'est un bel exemple, mais il y avait d'autres exemples avant, on en avait un peu moins parlé. Donc, j'allais dire que pour les professionnels, ce n'est pas un scoop quand même, mais c'est une jolie manip.
Alors, quel était le but de l'étude d'abord et comment les chercheurs ont procédé?
Alors, ils ont pris une opportunité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces lézards bruns de Cuba sont envahissants dans le sud-est des États-Unis, et en particulier en Floride. Et ils se sont rendus compte que les lézards verts de Floride et ces lézards bruns de Cuba sont, au point de vue écologie, presque semblables. Et donc, ils pensaient qu'il y allait avoir une interaction entre les deux espèces. Et disons que la théorie dit que lorsqu'il y a deux espèces proches qui sont en interaction au point de vue écologique, eh bien, il peut y avoir une divergence morpho-anatomique, comportementale, etc., qui peut aller très vite, à condition, bien sûr, que les deux espèces ne s'hybrident pas.
Ouais, donc, ils avaient envie de le tester.
Ils avaient envie de le tester et ils avaient déjà remarqué que le lézard marron de Floride, l'autochtone, réagissait...
Le vert de Floride.
Excusez-moi, le vert de Floride autochtone réagissait de manière forte au point de vue de leur territoire de chasse à l'arrivée du lézard marron.
De Cuba.
Ouais. Et en fait, ce sont des animaux qui, lorsqu'ils sont indépendants, eh bien, ont comme territoire de chasse du sol jusqu'au sommet des arbres.
Ouais.
Hein, ils grimpent très très bien dans les arbres. Et ils grimpent très bien dans les arbres parce qu'ils ont à l'extrémité de leurs orteils des petites ventouses qui ont des lamelles. Et ces petites ventouses, et il y a des griffes.
Ouais.
Et donc, avec les lamelles, ces ventouses et ces griffes, ils peuvent grimper dans les arbres parfaitement bien.
Alors, nos petits lézards verts américains, qui étaient tranquilles, peinards, en Floride, ils voient débarquer donc ces marrons de Cuba. Et qu'est-ce qui se passe alors?
Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux vont surtout se mettre tout en haut des arbres.
Ouais.
Ils vont aller dans les branches supérieures et les lézards bruns vont être dans les branches inférieures, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc une séparation importante des territoires.
Donc là, on se dit, bon, il y a une première réaction.
Il y a une première
qui
réaction.
Est intéressante.
Et qui était d'une très grande rapidité.
Ouais. Hein.
C'est-à-dire que, en fait, cette introduction a été faite sur des petits îlots de Floride qui sont au niveau d'Orlando, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, ils ont choisi ces îlots, ils ont introduit des petites populations et en un an, les choses se sont faites.
Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est le changement d'anatomie des lézards. Parce que alors là, c'est époustouflant ce qui s'est passé.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'hypothèse qu'ils ont faite. C'est-à-dire qu'ils ont comparé avec les autres espèces de lézards. Et donc, l'anatomie montre que les lézards qui montent le plus haut dans les arbres ont des ventouses plus grandes. Et donc, ils ont fait l'hypothèse que peut-être la pression de sélection pourrait être que les lézards qui montent le plus haut dans les arbres pourraient, sous une sélection forte, avoir des ventouses plus grandes. Et c'est ce qui s'est passé.
Ouais.
Et donc, c'est rapide parce que c'est 20 générations.
Donc c'est extrêmement rapide.
C'est extrêmement rapide.
Effectivement, c'est quelques années à peine pour observer
ces
changements.
C'est une quinzaine d'années.
Une quinzaine d'années. Et donc, on voit l'anatomie donc, de ces lézards verts changer donc, avec l'arrivée de ces envahisseurs de Cuba. Parce qu'ils ont eu en fait un effet de stress, c'est ça? C'est cet effet de stress qui a provoqué ces changements? Qu'est-ce qu'on peut imaginer alors?
Oui, il y a un effet de stress. Alors, naturellement, maintenant, comment ça s'est passé là, ils n'en parlent pas dans le papier. C'est un peu des hypothèses que je peux formuler, moi. C'est-à-dire qu'en fait, je ferai la différence entre ce qu'on m'aurait dit lorsque j'avais 20 ans et ce qu'on dit maintenant. Qu'est-ce qu'on aurait dit il y a 20 ans? On aurait dit, eh bien voilà, il y a eu des mutations qui font qu'il y a un polymorphisme qui arrive, et puis une sélection, et tout d'un coup, voilà, sous l'effet de la sélection, les ventouses grandissent. Et en fait, maintenant, ce qu'on va dire, c'est maintenant qu'on connaît l'épigénétique, on va dire que le polymorphisme génétique existait déjà, était préexistant, mais était masqué par l'épigénétique.
Il était en sommeil, quoi,
Exactement, c'est le bon terme. Il était en sommeil. C'est une mémoire en sommeil. C'est tout à fait ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a un stress comme ça? Il y a un stress qui se fait au niveau du génome. Et le stress au niveau du génome va lever l'épigénétique. Et donc, à ce moment-là, le polymorphisme va se révéler. C'est-à-dire que la différence qu'il y a maintenant, c'est qu'on va utiliser un polymorphisme qui existait précédemment et qui n'était pas utilisé. Et donc, on comprend pourquoi ça peut aller très vite.
Ouais, donc ça modifie cette espèce de lézard vert de Floride. Alors, ce qui serait amusant, c'est d'à nouveau enlever les lézards marrons pour voir ce qui se passe.
Ben oui. Et en fait, eh bien, on peut prédire ce qui va se passer, parce que c'est en comparaison avec là des manips qui ont été faites, des études qui ont été faites sur les pinsons des Galapagos.
Ouais.
Où les pinsons des Galapagos, on a vu que...
Les pinsons de Darwin.
Les pinsons de Darwin.
C'est ça.
Les pinsons de Darwin, eh bien, dont la taille et la force du bec va changer suivant l'évolution du climat. C'est-à-dire, il y a des périodes sèches. Les graines sont dures, les becs deviennent plus courts et plus forts. Des périodes humides, les graines sont plus grandes et moins fortes, et bien les becs diminuent.
Ouais. Il y avait un autre exemple très connu, Hervé Le Guyader, c'était avec les papillons, les phalènes du bouleau en Angleterre, oui. Sous l'ère industrielle. C'est intéressant, ça aussi.
C'est intéressant.
C'est exactement la même chose, au fond.
Pas tout à fait.
Bah, il y avait l'environnement, en tout cas, oui, un phénomène épigénétique, on pourrait dire.
Il y avait l'environnement.
Qui a modifié les gènes de ces papillons.
Oui, là, il y a des mutations, mais la génétique, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que la génétique est d'une complexité. C'était abominable sur le mélanisme industriel.
Ouais. Ouais. Mais en gros, ces papillons avaient une couleur.
Oui.
Hein, ils étaient quoi, blancs au départ?
Ils étaient blanc mouchetés.
Voilà. Et puis évidemment, avec la pollution...
Mélanique.
Voilà. Et ça devenait problématique parce qu'ils étaient très visibles. Et donc, ils ont changé de couleur. Ils sont devenus comme la pollution quasiment.
Et puis après, quand la pollution a arrêté,
ils sont redevenus blancs. Voilà. Publication donc dans Science, hein, c'est intéressant ce qui se passe, puisque là vraiment on a une expérimentation sur une courte échelle de la théorie de l'évolution avec ces lézards verts de Floride et les marrons de Cuba. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ain't No Sunshine avec Bill Withers sur France Inter.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Voilà la suite de l'actualité scientifique avec nos invités. Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne, PDG de Novespace. C'est quoi Novespace, Jean-François Clairvoy ?
Novespace est une filiale de l'Agence spatiale française, le CNES, qui est propriétaire de l'Airbus 0G, qui offre l'apesanteur pour des chercheurs et aussi quelques vols par an pour des baptêmes de l'air.
Voilà, avec des émotions, des sensations, comme si on était dans l'espace.
Ah oui, c'est la même apesanteur et on fait même des paraboles à gravité lunaire et martienne où sur le plancher de l'avion, vous avez exactement... C'est pas la simulation, c'est la vraie pesanteur réduite que vous ressentiriez si vous étiez debout sur la Lune, un sixième, ou sur Mars, un tiers de la gravité terrestre.
On parlait de génétique et des changements anatomiques des lézards il y a un instant. Est-ce qu'on a étudié les changements anatomiques des astronautes dans l'espace ou pas?
Ah, c'est étudié depuis très longtemps. On est toujours cobaye.
Mais oui, alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quel résultat à cette question?
Y a des évolutions sur la densité osseuse, sur le système immunitaire, sur la digestion, sur les yeux. Et le corps s'adapte et on se sent très bien.
C'est vrai?
Oui, il y a vraiment
un sentiment de bien-être.
On réfléchit, on a la même capacité intellectuelle, sensorielle, émotionnelle, on est performant au travail, on peut jouer des instruments de musique et le corps s'adapte, c'est fabuleux.
Je rappelle que vous avez volé à 3 reprises dans l'espace, 94, 97, 99, et donc au cinéma depuis mercredi, c'est pour ça qu'on vous a invité, Interstellar. On aimerait savoir si ce film est une bonne surprise, film de Christopher Nolan. Voici la bande-annonce, on en parle juste après.
Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière.
Phase d'allumage moteur principal, H-10.
Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider.
9.
Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps ?
8.
Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance.
7.
Murphy, il faut que tu me parles.
6.
Il faut qu'on règle ça avant que je parte.
Tu sais même pas quand tu reviendras.
5. Allumage moteur principal.
Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde.
Non.
4.
Quand tu deviens parent.
3.
Il y a une chose qui te paraît très claire.
2.
Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité.
1.
Je reviendrai.
Voilà, bande-annonce du film Interstellar de Christopher Nolan avec Matthew McConaughey. Ce film était plutôt précédé de bons échos déjà quand même, hein, Jean-François Clairvoy. Quel est le pitch alors de ce film ? 2h50 ?
Oui, il est long, mais moi j'ai adoré. Bon, si vous aimez le thème des relations parfois un peu compliquées entre un père et sa fille,
oui.
Il y a deux histoires père-fille en parallèle.
Oui.
L'astronautique avec les vrais enjeux, les vrais défis de l'astronautique d'aujourd'hui et qui sont répercutés dans le film. Les défis de la cosmologie einsteinienne qui sont aussi respectés, qui respectent les lois de la physique, même si elle est théorique et pas pratiquée en laboratoire aujourd'hui. Et de l'exploration et le thème de la survie terrestre, ben vous aimerez le film parce que ce sont les sujets qui sont abordés et qui sont abordés avec un fond sérieux et vraiment utilisant les connaissances qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas d'élucubration totalement loufoque.
Bon, il y avait des scientifiques, hein, comme à chaque fois maintenant quasiment sur ces grands films, hein, qui sont là pour conseiller évidemment le réalisateur. Donc vous avez répondu à la question qu'on se posait, il faut y aller, c'est
oui,
ça hein,
puis,
vous nous conseillez d'aller le voir.
Tous mes collègues astronautes, il y a eu récemment un article d'un sondage auprès d'astronautes américains, tous ont beaucoup aimé le film aussi.
Donc il y a un groupe d'explorateurs, c'est ça dans le film, qui va utiliser une faille découverte dans l'espace-temps pour repousser les limites humaines et trouver quoi alors des terres ailleurs où elle est habitée.
Voilà une singularité de l'espace-temps qui est prédite par les théories actuelles qui modélisent notre univers, permet de se rapprocher rapidement d'un autre système solaire alors que avec nos technologies d'aujourd'hui, il faudrait des millions d'années avec les vitesses qu'on a, et à la recherche d'une planète qui pourrait éventuellement sauver l'espèce humaine parce que la vie sur Terre devient de plus en plus difficile, notamment au niveau de l'accès des ressources pour nourrir la population.
Ouais. Est-ce que c'est une question qu'on doit se poser ça, aujourd'hui déjà, à votre
bon,
avis,
on se la pose.
D'aller chercher des planètes candidates à l'habitation ?
Ah, rechercher les planètes ? Non, en tout cas, ce qu'on cherche aujourd'hui, et à l'Agence spatiale européenne est une agence championne dans le monde à ce sujet, et pourrait s'appliquer la doctrine du capitaine Kirk, c'est nous explorons des mondes étranges à la recherche de traces de vie ou de briques élémentaires de vie et avec audace là où on n'est jamais allé. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine avec Rosetta, on va
Mais
en parler.
Oui.
Mais on recherche aujourd'hui les traces de vie ou d'éléments de vie. Est-ce que déjà dans le système solaire,
oui.
Il y a des endroits où la vie a pu exister ou existe ou pourrait mm-hmm. exister ?
Bon, il y a Mars, évidemment.
Qui, c'est qui le sujet nous, de l'astrobiologie.
Qui
et
nous
Mars
intéresse
est
particulièrement.
Oui. Bien ciblée, oui.
Oui.
Mais depuis qu'on trouve beaucoup de planètes tournant autour d'autres étoiles que notre Soleil, on pense de plus en plus qu'il est possible qu'il y ait d'autres planètes dans les zones habitables de leur Soleil, si possible habitables elles-mêmes et encore mieux peut-être habitées. Mais ça, on ne sait pas aujourd'hui, mais on le cherche.
Ouais. Ça va être très compliqué quand même d'emmener les humains dans une échelle de temps évidemment très courte, habiter ailleurs, même sur la Lune. Ce serait quand même un défi incroyable à relever, non ?
Bah, avec nos technologies d'aujourd'hui, oui, mais il ne faut pas s'interdire de penser que dans 1000 ans, 100 000 ans, on saura faire des choses qui sont très très difficiles aujourd'hui tout en respectant les lois de la physique.
Ouais. Hervé Le Guyader, je m'adresse aux biologistes. Est-ce qu'à votre avis, l'espèce humaine sera encore sur Terre dans 1000 ans, tiens, par exemple ? exemple.
Bah, mais non, c'est rien du tout.
Ah oui, mais bon, quand même, on a des moyens de nous faire disparaître assez rapide. Hein.
Oui, oui, mais enfin bon, donc, je crois que dans 1000 ans...
Mais si on se pose 1 milliard d'années?
1 milliard d'années, ça c'est un autre problème.
Oui, à votre avis, l'espèce humaine sur Terre?
Oh, ça, je ne ferai aucune prédiction.
Une évolution possible. 1 milliard d'années, c'est
dans bien sûr. Dans l'histoire du vivant sur Terre, il y a eu des extinctions majeures, des cataclysmes purement naturels, cosmiques, tectoniques, climatiques. La probabilité que l'espèce humaine ne soit plus là avant la fin de l'existence de la Terre et du vivant sur Terre est quand même élevée. Donc il faut qu'on apprenne à vivre ailleurs, si on veut pérenniser l'espèce humaine au-delà...
Ou alors avec des grosses ventouses, si j'ai bien compris.
Marie-Noël Imbert, voilà, faire des bonnes ventouses aux pieds, par exemple, voilà. Pour pouvoir survivre à l'envahisseur. Le tournage, en tout cas, du voyage spatial dans ce film Interstellar est bien fait, vous qui êtes un spécialiste de question.
Alors, il y a beaucoup de clins d'œil. Il y a des films connus, 2001, Odyssée de l'espace, le film Contact, Star Trek. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ces clins d'œil. Et les prises de vue dans le cockpit, on reconnaît des prises de vue des missions de la NASA au tout début de Mercury, Gemini, avec Cooper, le vrai Gordon Cooper, astronaute. On a l'impression de revoir les mêmes vues. Donc il y a beaucoup de flashbacks et de clins d'œil à l'histoire de l'astronautique vécue, à des grands classiques du cinéma spatial, et ça c'est sympa aussi.
On est gâté en ce moment quand même, entre Gravity, qui a eu beaucoup de succès aussi, qui était un bon film, et Interstellar. Alors les Québécois disent Interstellar, nous ça sera Interstellar en France. C'est vrai qu'il y a de bons blockbusters.
Oui, ça intéresse les gens, et c'est vrai qu'avec les programmes spatiaux d'aujourd'hui, on éveille les jeunes et les adultes et on nous fait nous poser des tas de questions sur, comme on le disait, qui nous sommes, d'où l'on vient, où l'on va, est-ce que la vie existe peut-être ailleurs. C'est des questions super géantes et qu'on se pose tous.
Jean-François Clairvoy, votre dernier vol dans l'espace remonte donc à 99. Ça vous chatouille de repartir lorsque vous voyez des images comme Interstellar, par exemple?
Ah oui, bien sûr.
Vous dites, j'aimerais bien retourner.
Oui, c'est puis les langages, les conversations, la gestion des systèmes quand il y a des crises, de passer sur système de redondance, c'est les langages que vous avez aujourd'hui dans l'émission spatiale actuelle.
Est-ce qu'il y a beaucoup de stress, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Hervé Le Guyader, chez nos lézards, mais chez le spationaute aussi, est-ce que vous êtes soumis à des conditions très particulières de stress? Vous êtes amené en tout cas à savoir les gérer, mais
oui, à l'entraînement,
vous les vivez?
À l'entraînement, on nous soumet à des tas de stress de type technique. Dans le simulateur, on passe plus de 70% de notre temps à nous entraîner à des cas de panne très très complexes où vous avez à la fois la fuite de carburant, la fuite d'air, le feu à bord, le court-circuit, le manche de pilotage qui ne répond plus. Il faut trouver la solution parce que les instructeurs n'ont pas le droit de nous donner des scénarios sans solution. On a des expéditions, des entraînements dans des conditions extrêmes où le risque est réel. En saturation sous l'eau ou en Antarctique ou dans les montagnes ou les lacs canadiens par moins 40 degrés. Donc une fois qu'on part, on se sent vraiment bien bardé.
Vous avez de bons outils.
Voilà, on est bien armé psychologiquement.
En attendant tout cela, le tourisme spatial, c'est un peu casse-gueule quand même en ce moment avec ce qui s'est passé, l'accident du vaisseau Spaceship Two. C'était prévisible un tel accident selon vous ou pas?
Ah non, pas prévisible, mais on savait qu'il y avait des risques et que ça pouvait arriver. On a tout fait pour que ça n'arrive pas. Malheureusement, c'est arrivé. C'est pareil dans tous les grands nouveaux programmes aéronautiques et spatiaux, parce que ça met en jeu des énergies considérables. Dès que vous mettez en jeu beaucoup d'énergie dans un système tout nouveau, l'avion est nouveau, le moteur est nouveau. Malheureusement, ça peut arriver. Et c'est arrivé.
Ouais,
et
donc, ça va sonner le glas du tourisme spatial, à votre avis, ou pas?
Non, je ne pense pas. Richard Branson a clairement dit qu'il allait poursuivre et il ne faut surtout pas s'arrêter après un échec.
Les Européens aussi sont sur l'idée du tourisme spatial.
Oui, il y a un projet Airbus qui est très avancé. Alors, il manque juste le financement pour taper dans la tôle, comme on dit. Mais au niveau des études de faisabilité et de la description du concept technique, c'est très avancé.
Il y a une navette suisse aussi, SOAR, qui est dans l'air avec
un projet
premier
suisse,
vol.
Il y a un projet suisse qui est très ambitieux. 2017, je crois. Voilà, très ambitieux sur le timeline qui ne sera certainement pas tenu parce qu'ils n'ont pas l'avion, ils n'ont pas le vaisseau. Mais c'est bien, il faut des initiatives privées et ambitieuses et qui en veulent, quitte à ce qu'il y ait du retard. Virgin Galactic a 7 ans de retard aujourd'hui. Ils en auront probablement 3 ou 4 de plus. Mais il y a un marché, il y a l'enthousiasme, il y a des financements, donc ça verra le jour.
Et puis bien sûr, le prochain événement spatial, c'est mercredi, on en parlait tout à l'heure, mission Rosetta. Ça y est, on va se poser sur la comète le 12 novembre, mais c'est incroyable. Ça fait si longtemps que Rosetta maintenant...
c'est une sonde qu'on a lancée il y a 10 ans. On a déjà peut-être, même si... même si on s'arrête là, on a déjà 90% de succès sur la mission. Et ouais. si on a en plus la cerise sur le gâteau de l'atterrissage de Phila et mercredi, ouais. c'est notre Apollon 11 à nous, en Europe.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour les gens qui disent « Bon, on entend parler de Rosetta, c'est quoi ce truc-là de comète ?» Qu'est-ce que ça représente? Vous dites « C'est notre Apollon 11 à nous, européens. Oui, » C'est ça, hein.
Pour plusieurs raisons. D'abord, on ne s'est jamais approché d'aussi près et encore moins posé sur le noyau d'une comète. Les comètes sont les objets du système solaire les plus anciens. Il y a plus d'un milliard de comètes dans notre système solaire. Et on pense que les comètes abritent beaucoup de secrets sur des questions qu'on se pose sur l'origine de l'eau sur Terre, du vivant, etc. Donc,
on va le vivre donc tous ensemble mercredi à la Cité des Sciences. La Tête au Carré va se déplacer là-bas. On attend le public au niveau 1 du forum avec une brochette d'invités. Sophie Becherel qui sera avec nous depuis Darmstadt en Allemagne, où se trouve le Centre Spatial Européen. Et puis toute la matinée, dès la matinale de France Inter également, pour commenter donc cette mission Rosetta et l'arrivée de Philae sur la comète Interstellar. Donc vous nous le conseillez. Et il y a un autre film également dont on souhaitait parler cet après-midi. C'est Particule Fever, la fièvre des particules. On en parle avec vous. Nathalie Besson, vous êtes au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicienne expérimentatrice sur l'expérience ATLAS, donc au LHC, l'accélérateur de particules du CERN.
Oui.
Vous avez vu, vous aussi, ce film, La fièvre des particules, qui raconte donc toute l'aventure autour du boson de Higgs, la particule élémentaire ultime du modèle standard. Même chose, un avis critique d'abord pour commencer sur ce film que vous avez vu.
Ah, mais alors là, il ne s'agit pas du tout de spéculation, parce qu'en fait, le film suit des protagonistes de la chasse aux particules, enfin à la particule, le boson de Higgs. Mmh. Et donc, on suit des théoriciens, des expérimentateurs, entre le moment où les premiers faisceaux ont circulé dans le LHC en 2008, jusqu'au moment où on a annoncé la découverte de cette particule tant recherchée. Et donc là, la parole est donnée aux physiciens eux-mêmes. Donc, j'ai pas de regard critique à avoir là-dessus. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que je pense, à mon sens, le mot important dans le titre du film, c'est plus fièvre
ah oui.
que particules.
Ben oui, oui.
Parce que ce qui est génial, là, c'est que toute cette aventure est vraiment montrée sous son aspect humain. On comprend, on voit l'enthousiasme des gens, on voit leurs attentes, on voit leurs moments de découragement. On voit la façon absolument magistrale dont toute la communauté se remonte les manches pour relever les défis quand il y a une tuile ou quand il y a quelque chose qu'on comprend pas. Enfin, on voit comment toute cette communauté avance pour comprendre comment fonctionne l'univers dans un même but, avec un enthousiasme et une passion dévorante. Et c'est chouette parce que moi, par exemple, je la vis de l'intérieur, cette passion. Et je ne pensais pas qu'on pouvait la donner à voir. Et en fait, ce film, c'est ça qui fait.
Voilà.
Donne à voir la passion des chercheurs. Et bon, accessoirement, évidemment, comme on fait la chasse au boson de Higgs, on voit aussi les outils des chercheurs. Donc, il y a des images absolument somptueuses sur mon détecteur, par exemple.
ATLAS.
Ou sur ATLAS, ou sur le LHC. Mais, et puis, ah oui, et alors, autre chose, évidemment, tout ça se passe évidemment au CERN,
ouais.
qui, pour moi, est l'endroit le plus génial du monde. Et on voit comment... comment le CERN, comment cet endroit super fédère les enthousiasmes et les passions de chercheurs qui viennent du monde entier pour aller dans une même direction, puis finir par découvrir, c'est pas mal.
Voilà, le boson de Higgs avec le récit de la plus grande expérience scientifique de l'histoire humaine. Hein. On peut aller, y aller avec les superlatifs. Et à voir donc au cinéma, c'est sorti également mercredi. Il faut regarder les salles parce qu'évidemment, c'est moins diffusé qu'Interstellar, on s'en doute. Mais c'est un très bon film, Particule Fever, réalisé par Mark Levinson. Et l'occasion de voir effectivement ce qui se passe là où vous travaillez, au CERN, donc sur la frontière franco-suisse. Nathalie Besson, merci de nous en avoir parlé cet après-midi dans
merci
notre club des Têtes au Carré. On parle beaucoup de cinéma, on parle télévision, on parle de Marie Curie avec vous, Marie-Noëlle Imbert, journaliste, réalisatrice et scénariste de documentaires. Et votre actu, c'est Marie Curie, effectivement, avec d'abord un livre, Marie Curie, portrait d'une femme engagée, c'est aux éditions Actes Sud. Et puis un film, un docu-fiction, comme on dit dans le jargon de la télévision, réalisé par Alain Brunard, auquel vous avez participé en tant que scénariste, et qui sera diffusé mardi 11 novembre en prime time. Attention, hein, Marie Curie, la science... En prime time, ce sera sur France 2 à 20h40.
Personnage universel, c'est le minimum.
On écoute justement un extrait du film.
Mesdames, face à l'armée qui tue, il est temps d'opposer une armée qui soigne et qui sauve. Vous serez cette armée. Après 2 années d'absolue indifférence, le service de santé vient de reconnaître l'importance de la radiologie dans les hôpitaux de l'Avent. Et nous avons besoin de gens habiles et débrouillards. Ce métier s'offre à vous, mesdames. Il est au moins aussi utile que de fabriquer des obus à la chaîne, à la différence près que lorsque la paix sera revenue, il le sera encore.
Voilà, ça rigole pas quand même. Hein. On sent la femme de caractère hein, chez Marie Curie.
Il y a effectivement un peu de... C'est important, c'est un moment important parce que c'est un moment où effectivement les femmes qui sont les seules à rester à l'arrière ont des choix à faire et beaucoup ont fait le choix d'aller fabriquer des obus. Et c'est vrai que Marie Curie leur offre une alternative, et une alternative qui durera. Je crois qu'elle elle a toujours voulu que les femmes aient accès, ça lui paraissait évident, hein, que les femmes aient accès à la connaissance, que tout le monde ait accès à la connaissance. Et là, c'était une occasion de le mettre en pratique.
14-18, portrait d'une femme engagée, c'est probablement la période la moins connue, en tout cas, de la vie de Marie Curie pour le grand public.
C'est une période très peu connue parce que les historiens des sciences ne s'y sont pas tellement intéressés parce que c'était postérieur à ses découvertes. Les historiens de la Grande Guerre ont dû considérer que Marie Curie était un peu un épiphénomène dans cette histoire. Et les historiens du service de santé des armées, qui avaient quelques archives, ont travaillé à partir de leurs propres archives. Mais le problème, c'est que Marie Curie, pendant les deux premières années de la guerre, a pratiquement tout fait de manière clandestine et contre les autorités. Donc ces archives-là, il y a uniquement à la Bibliothèque nationale, au Musée Curie, et dans des archives privées qu'on pouvait les trouver. Ouais. Et
voilà, donc c'est comme ça que vous avez travaillé, à la fois pour écrire le livre et puis pour le scénario du docu-fiction.
Voilà, c'est aller à la source pour essayer de comprendre pourquoi cette femme qui était détruite après la mort de son époux, revit d'une certaine manière après la guerre. Il s'était passé quelque chose et c'est ça qu'on a voulu comprendre. Et on a trouvé énormément de choses avec Yann Le Gall, le co-auteur aussi du film. Beaucoup de choses qui nous permettaient non seulement de raconter presque quotidiennement sa vie pendant la guerre et le nombre de vies qu'elle a pu sauver, ses batailles, mais aussi, qui elle était intimement. C'est-à-dire, je pense que c'est une période de sa vie qui la révèle humainement. Or, ce n'est pas quelqu'un qui est très facile à comprendre. Donc je pense que c'est une période importante. Elle la raconte dans un texte qui n'avait jamais été publié non plus et qui est très touchant.
La famille vous a aidé aussi dans vos
investigations ? La famille, bien sûr, on a rencontré les petits-enfants de Pierre et Marie Curie, les enfants d'Irène et Frédéric Joliot-Curie, Hélène Langevin et Pierre Joliot, qui sont des chercheurs aussi. Donc
en physique aussi, pour Hélène.
Qui nous ont beaucoup aidés par ce qu'ils sont. Essentiellement, c'est-à-dire que voilà, des gens qui n'aiment pas nécessairement la gloire et qui même la rejettent, mais qui ont les yeux qui brillent quand on parle de science.
Et quand on parle de mai. Mais c'était le surnom donné justement.
Voilà, c'était pas maman, à leur grand-mère, mais à leur mère.
À leur mère et les petits-enfants aussi.
Les enfants l'appelaient mai, c'est mai et paix.
Hervé Le Guyader, vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Est-ce trop vous exactement cette université ? Alors, sur un des anciens sites où travaillait le couple ou pas ?
Là où travaillait Marie Curie, c'est l'IPG qui est. C'est pas loin, hein, c'est juste à côté de la place Jussieu. Mais le hangar a été gardé. C'est très bien.
Ouais. Où est-ce que vous avez tourné alors justement pour le film ?
Alors tout a été tourné en Belgique parce qu'Alain Brunard, le réalisateur, est belge et que la production Capadrama est en coproduction avec un producteur belge. Donc tout a été tourné là-bas.
C'était plus simple évidemment que tourner sur les sites qui sont encore occupés aujourd'hui.
Hein. Les sites existent puisque l'actuel musée Curie est le bâtiment pavillon Curie de l'Institut du Radium qui est créé juste avant la guerre et qui est le laboratoire où a travaillé Marie Curie.
Et il y a encore le jardin.
Il y a encore le jardin. Tilleul qu'elle a planté.
Absolument.
Et ses grandes fenêtres et son laboratoire, son bureau.
1914, qui est Marie Curie en 1914 ? Parce qu'on se dit, mais il faut la resituer quand même dans son parcours. C'est-à-dire qu'elle a déjà ses deux prix Nobel quand même.
Elle a deux prix Nobel, elle est célébrissime dans le monde entier, elle est admirée, mais aussi parfois très critiquée. Elle est veuve, elle élève seule ses deux filles, elle se bat pour pouvoir continuer à faire des recherches dans des conditions difficiles et des conditions financières difficiles. Elle essaye de fuir la presse, de fuir les médias et d'avancer. Et quand la guerre éclate, ses filles sont déjà parties en vacances, elle est seule à Paris et elle reste. Elle décide de rester pour agir.
Et Pierre est décédé 8 ans plus tôt.
8 ans plus tôt.
Ça, c'est important.
Dans un accident très bête.
Parce qu'il s'est fait écraser, c'est ça là,
écrasé par un camion dans une rue de Paris.
Ouais. 14-18, donc effectivement, les hôpitaux du front et Marie Curie qui arrive. Les rayons X sont évidemment centraux dans cette histoire. Extrait du docu-fiction.
C'est d'ici que tout part. Un simple tube de verre à l'intérieur duquel on a fait le vide. Cette lueur a intrigué bien des savants, a suscité d'étonnantes expériences. Un jour, l'un d'eux, Röntgen, voulut savoir si elle était plus puissante que la lumière du jour. Et lorsqu'il envoya le courant électrique dans le tube, dans son laboratoire, Röntgen possédait un écran phosphorescent comme celui-ci. Il renvoie la lumière lorsqu'il en reçoit. Et il a réagi comme vous, mesdames.
Bertha! Komm, schnell, sofort, Bertha!
Röntgen venait de découvrir que son écran était atteint par des rayons qu'il ne pouvait pas voir. Des rayons invisibles.
Bertha!
Des rayons si étranges qu'il les a baptisés X, comme l'inconnu en mathématiques.
Ça sert à quoi?
Au début, on n'en savait rien. On s'en servait dans les spectacles de foire. Mais aujourd'hui, on sait que c'est un puissant outil pour la chirurgie.
Voilà, Marie-Noëlle Humbert et l'apport majeur de Marie Curie. Donc, c'est d'avoir apporté justement les rayons X directement sur le champ
front,
de bataille.
C'est-à-dire que le dogme militaire était d'évacuer les blessés vers l'arrière. Et elle a compris très vite qu'il fallait qu'il y ait une intervention possible très très tôt, tout de suite, ouais. Immédiatement, pour éviter les infections. Et donc, les rayons X permettant de voir au travers des corps permettaient d'identifier la localisation précise des éclats d'obus, de shrapnel, etc.
Ouais, donc, elle a réquisitionné des voitures, des
elle
petites
a...
voitures. C'est ça qu'on appelait
des voitures.
Les petites curies. Hein.
Oui, elle est allée voir quelques princesses, baronnes et amies qui lui ont prêté, entre guillemets, mais c'est ce qu'elle disait, prêté ouais. Des voitures qu'elle a totalement transformées. Mais elle, hein, elle et son mécanicien de laboratoire, qu'elle a du coup transformé en mécanicien automobile par l'occasion. Et tous les deux, en se mettant les mains dans le cambouis, ils ont changé les caisses, transformé les voitures qui allaient au champ de course en petites camionnettes, raflé tous les appareils à rayons X de l'université. Et ils sont partis. Ils sont partis au front contre les autorités, en essayant d'obtenir des laissez-passer qu'elle avait rarement, en prenant des chemins de traverse. Voilà.
Elle a formé des gens aussi, évidemment, sur place. Hein.
Elle a formé. Alors en fait, dès qu'elle arrivait dans un hôpital, il fallait déjà convaincre les chirurgiens qui n'étaient pas tous convaincus. Ensuite, repérer s'il y avait des besoins, si elle pouvait revenir avec un établissement fixe, un poste fixe de radiologie, et puis prendre ou pas des autorisations, enfin se débrouiller pour qu'une fois revenue à Paris, elle trouve le matériel, elle le renvoie, elle vienne l'installer, elle forme la personne qui allait pouvoir l'utiliser. Et comme ça, il y a une espèce de feu de poudre, ouais. Et elle a eu un réseau assez tentaculaire à la fin de la guerre.
Et le bilan, c'est des centaines de milliers de soldats qui ont pu bénéficier justement de ces rayons X.
On estime qu'un million de blessés ont été secourus par ses propres installations à elle, et 1000 d'entre eux de ses propres mains.
Ouais. Il y a un autre personnage important dans le film, c'est Claudius Regaud.
Oui. Hein,
parce que là, évidemment, c'est le cancer qui peut être soigné par la radiothérapie.
Voilà, c'est-à-dire que Claudius Regaud avait rencontré Marie Curie peu de temps avant la guerre, puisqu'il devait se partager le laboratoire. L'Institut Pasteur avait décidé de créer un institut du radium, avec un côté recherche médicale pour Claudius Regaud, qui était assez inconnu, hein, qui est un chercheur lyonnais. Et Marie Curie, double prix Nobel. Donc ça l'embêtait un peu, cette présence de l'autre. Et puis ils ont eu tous les deux des parcours pendant la guerre qui leur ont permis de se rencontrer. Et c'est elle-même, en 1917, qui lui écrit pour lui dire qu'il faut créer un centre de radiothérapie avec son propre radium. Et c'est comme ça que l'Institut de recherche pure se transforme, après la guerre, en institut de soins aussi. Ouais, et ça va donner
exactement.
L'Institut Curie et la base pour tous les centres de traitement contre
voilà,
le cancer.
Les thérapies qui ont pu bénéficier, évidemment, de ces découvertes. Et c'est une façon aussi de réhabiliter un peu le personnage
de Claudius Regaud. Était très injustement oublié. Et en plus, la famille pensait que c'était l'ombre de Marie Curie, alors que ce n'était pas du tout ça. C'est quelqu'un de très timide, mais ils avaient tous les deux une grande pudeur, et on est très heureux qu'il existe à nouveau aux yeux de pas mal de gens.
Donc le 11 novembre, c'est mardi prochain, France 2, 20h45, pour ce Prime, docu-fiction, donc à la fois cette fiction, cette histoire, et des images d'archives.
Oui, et puis tout est vrai, 14, même 18. Dans la fiction, voilà, très bien incarné par Dominique Raymond.
Voilà. Et on vous doit aussi un film qui avait été fait autour de Pasteur,
absolument,
hein, qui avait très bien marché,
sur le même principe.
Dont on avait parlé. Voilà,
on a envie de faire connaître les scientifiques, il y a beaucoup de
exactement,
monde.
Et des figures légendaires comme celle de Marie Curie, ouais. Donc ce sera mardi prochain. Et puis donc je signale ce livre parallèlement chez Actes Sud, Le portrait d'une femme engagée, 14-18. Ce récit donc que vous signez Marie-Noëlle Humbert. Merci beaucoup à tous pour votre venue cet après-midi dans le club des Têtes au Carré. Je voulais juste vous signaler, toujours à propos d'espace, qu'arrive aujourd'hui un nouveau mensuel scientifique en anglais. En fait, c'est Ciel et Espace qui sera adapté donc en anglais. Ça va s'appeler First Light Magazine. Ça arrive aujourd'hui, c'est entièrement numérique, interactif. Ça s'appuie sur les dernières innovations en matière de digital publishing. C'est donc la revue Ciel et Espace, mais pour le monde entier. On voulait saluer toutes les équipes qu'on connaît bien là-bas, et vous pouvez découvrir ce magazine First Light sur www.firstlight-magazine.com. C'est en lien évidemment sur le site de La Tête au Carré. Bon week-end à tous.
Bon week-end.
Les infos, c'est dans 5 minutes. On a un peu de temps.
Merci. Merci.
swear that you've seen me. Yes, you've seen me here before. Before. And so don't tell it. Don't tell it otherwise. This voice, this particular voice, yes, you've heard it before. Before. And so don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long. 'Cause I had done it all before, and I won. You felt this feeling. Tell me, don't be ashamed. You felt it before. Before. And so don't tell me. Don't tell me otherwise. I almost forgot. Foolish me, I almost forgot. Forgot that where I'm from, we see the rain before the rain starts to rain.
Benjamin Clementine, à l'instant sur France Inter. N'oubliez pas de podcaster les têtes au carré que vous avez manquées. C'est facile, il suffit de vous abonner sur le site. C'est gratuit et vous pouvez réécouter tranquillement donc tous les dossiers de la semaine.